VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 1er mai 2023. Bonjour et bonne fête du travail à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Tout d'abord, les titres. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires annoncent prolonger pour 72 heures une trêve globalement non respectée. Face à une situation sans précédent au Soudan, l'ONU envoie un haut responsable dans la région. En RDC, 8 agriculteurs tués dans une attaque attribuée à la milice Codeco dans le nord-est du pays. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo demande pardon aux victimes des crises politiques. Visite à Washington du président philippin Ferdinand Marcos Jr. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. L'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont annoncé hier prolonger pour 72 heures une trêve globalement non respectée, mais qui a permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers et de poursuivre les négociations. Cette prorogation, sous médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, est intervenue quelques heures avant l'expiration dimanche à minuit de ce cessez-le-feu qui avait duré 3 jours, a précisé l'armée dans un communiqué Jacques Aristide.
Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs depuis le déclenchement le 15 avril d'une impitoyable guerre de pouvoir entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide. Les gouvernements étrangers ont évacué leurs ressortissants et des citoyens d'autres nationalités. Faisal Ben Farhan, le chef de la diplomatie saoudienne, a reçu hier un émissaire du général Burhan, mais malgré les appels de la communauté internationale, aucune solution diplomatique n'est en vue entre les deux rivaux. L'ONU intensifie ses efforts pour aider les personnes en quête de sécurité dans les pays voisins, indique son secrétaire général Antonio Guterres, qui dit soutenir toute médiation africaine. Un premier avion chargé de 8 tonnes d'aide et qui devrait permettre de soigner 1500 personnes a atterri à Port-Soudan hier, d'après le comité international de la Croix-Rouge. La guerre a fait au moins 528 morts et environ 4600 blessés, selon des chiffres largement sous-évalués, et les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve.
Face à une situation sans précédent et à la persistance des combats à Khartoum, et malgré donc la prorogation d'une trêve certes peu respectée au Soudan, l'ONU a décidé dimanche d'envoyer immédiatement dans la région son responsable pour les affaires humanitaires, Martin Griffith. « Je suis en route afin d'étudier comment nous pouvons apporter une aide immédiate aux habitants », a-t-il dit dimanche. Selon lui, la situation humanitaire atteint un point de rupture dans le pays. Le pillage massif des bureaux et des entrepôts humanitaires a épuisé la plupart de nos stocks, a dit M. Griffith. Nouvelle attaque meurtrière en République démocratique du Congo. La milice communautaire Codeco est accusée d'avoir tué au moins 8 agriculteurs hier dans 3 villages du nord-est du pays. Abdourahmane Dia.
La Codeco, coopérative pour le développement du Congo, a pris d'assaut tôt hier matin les localités de Douviré, Ndialo et Benji, selon Adubanjo Kivia, chef du groupement Sumbuso dans le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Les agriculteurs, dont une femme, ont été tués par balle avant d'être découpés à la machette, indique le chef de cet ensemble de villages. Les miliciens ont opéré calmement, car dans le groupement de Sumbuso, il n'y a pas de militaires, selon Adubanjo Kivia, qui ajoute que les miliciens ont aussi incendié une centaine de maisons et pillé du bétail et des produits champêtres. Il plaide pour le déploiement des forces armées congolaises pour sécuriser la population et mettre fin au massacre dans son entité située au nord de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. La Codeco est une milice de plusieurs milliers d'hommes qui affirme protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Emma, défendue par une autre milice, les Zaïre. La dernière attaque d'envergure attribuée au groupe Codeco dans le territoire de Djougou remonte au 14 avril avec plus de 40 morts.
L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a demandé pardon aux victimes de plusieurs violentes crises politiques lors d'un meeting à Boaké dimanche, à quelques mois d'élections régionales et locales et à 2 ans de l'élection présidentielle. Boaké était le fief de la rébellion armée ayant tenté en 2002 de renverser le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, son ex-mari. Simone Gbagbo a demandé en outre le retour du chef de cette rébellion de 2002, Guillaume Soro, aujourd'hui en exil et condamné à perpétuité par la Côte d'Ivoire en juin 2021 en rapport avec une tentative d'insurrection en 2019. C'est, selon elle, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qu'il ait la possibilité de participer au processus de réconciliation nationale initié par l'actuel président Alassane Ouattara. Le gouvernement de Djibouti a annoncé dimanche une campagne de répression de l'immigration clandestine justifiée par ce qu'il a appelé des questions de sécurité et de santé publique. Selon le ministre de l'Intérieur, Saïd Nuh Hassan, le pays est devenu ces derniers temps une des routes les plus fréquentées pour la migration et était saturé par un afflux de personnes en provenance des pays voisins. Désormais, les étrangers en situation irrégulière, exerçant une activité informelle, seront enregistrés et auront un document de circulation si leurs employeurs les déclarent, tandis que ceux sans activité sont invités à repartir immédiatement et volontairement dans leur pays d'origine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., effectue une visite ici aux États-Unis où il va rencontrer son homologue Joe Biden afin de renforcer l'alliance entre les deux pays en pleine période de tension avec la Chine, Mohamed Humfa.
Nous allons réaffirmer notre engagement à promouvoir notre alliance de longue date en tant qu'instrument de paix et en tant que catalyseur du développement dans la région Asie-Pacifique, a déclaré le chef de l'État philippin avant de s'envoler de Manille hier. Il doit rencontrer le président Joe Biden ce lundi à Washington, un entretien qualifié par Ferdinand Marcos Jr. d'essentiel pour faire avancer nos intérêts nationaux et renforcer cette alliance très importante. Durant le week-end, Washington a appelé Pékin à cesser son action provocatrice et dangereuse dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale où une collision a été récemment évitée de justesse entre 2 vaisseaux de gardes-côtes chinois et philippins. Le 23 avril, des bateaux chinois et philippins ont failli entrer en collision à environ 200 km de l'île philippine de Palawan et à plus de 1000 km de celle de Hainan, la terre chinoise la plus proche. Cet incident est le dernier en date d'une longue série. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, faisant fi d'un jugement international de 2016, en vertu duquel ses prétentions n'ont pas de fondement légal.
Le chef présumé du groupe djihadiste État islamique, nom de code Abu Hussein al-Qurachi, a été neutralisé samedi en Syrie lors d'une opération conduite par les services de renseignement turcs, a affirmé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il n'a pas fourni davantage de détails sur les circonstances de l'opération. Le groupe État islamique avait annoncé le 30 novembre la mort de son précédent chef, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurachi, sans en préciser les circonstances. Il avait été aussitôt remplacé par Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi, selon l'organisation. Au Paraguay, l'ex-ministre des Finances, Santiago Peña, candidat du Parti conservateur au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle sur son principal rival de centre-gauche, Efrén Alegre, selon les chiffres officiels. Il a été déclaré vainqueur par le tribunal électoral avec plus de 42% des voix contre 27,5% à M. Alegre selon le décompte de 96% des votes. Il succédera au mois d'août à Mario Abdo Benitez pour un mandat de 5 ans. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI a approuvé une aide d'urgence de 80,77 millions de dollars au profit du Burkina Faso. Ces fonds aideront le gouvernement burkinabé à faire face à l'insécurité alimentaire, la détérioration des conditions de sécurité, des événements climatiques défavorables et les effets de la guerre russo-ukrainienne qui a déclenché une augmentation des prix de l'énergie et des intrants agricoles, ainsi que la réduction de l'accès à la nourriture pour les ménages pauvres. La section nigérienne de la route transsaharienne est quasi achevée avec un aménagement de 1890 km sur un total d'environ 1950 km, soit 97%, affirme Albéric Oussou, responsable du projet au Niger pour la BAD. Longue de 9400 km, cette voie qui s'étire de Lagos à Alger doit relier l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, puis à l'Afrique du Nord. Pour terminer, le gouvernement togolais et la BAD ont récemment lancé le projet de la promotion de l'assainissement inclusif des centres urbains pour améliorer les conditions de vie dans 9 communes du Togo, dont Sokodé, la deuxième ville du pays. Financé par la BAD pour environ 820 millions de francs CFA, ce projet permettra de traiter des déchets solides biodégradables, améliorer la gestion des boues de vidange, favoriser la productivité agricole et assurer une meilleure santé aux populations.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Cyclisme pour commencer. Le premier coup de pédale du Tour du Bénin de 2023 sera donné demain mardi.
Oui, avec la première étape Parakou-Djougou, longue de 132,530 km. Ils seront 75 coureurs sur la ligne de départ venus de 13 pays, dont 10 africains suite au forfait de l'Afrique du Sud. On écoute le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romiad Razoumé.
Nous avons invité beaucoup de pays africains cette fois-ci parce que nous espérons que cela pourra combler le ranking parce qu'il y a de moins en moins de courses classées UCI au calendrier de l'Union cycliste internationale. Donc nous avons invité Guam dans les îles océaniennes, nous avons invité les Pays-Bas et la France. Cette année, le tour va réellement se terminer à la 5e étape sur la Marina. Mais le lendemain matin, nous aurons le Grand Prix de la ville de Cotonou sur la route des pêches.
Au total donc, 748,03 km à parcourir en 5 étapes pour cette 18e édition.
On enchaîne avec le basketball suite des matchs de la conférence NIL de la Basketball Africa League.
Et troisième victoire en 3 sorties pour le Petro Atlético qui a eu raison des Tigers d'Afrique du Sud 87-48. Les Angolais en tête de cette conférence NIL ont presque assuré leur qualification pour la phase finale. De leur côté, les Mozambicains de Ferroviário Beira se sont repris après 2 revers en battant les Guinéens de Slack 109-97. Pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec 2 matchs.
Football à présent, les interclubs de la CAF, on connaît les demi-finales.
Tout à fait. En Ligue des Champions, le Mamelodi Sundowns jouera le tenant du titre, Louida de Casablanca, tombeur des Tanzaniens de Simba. L'autre demi opposera à la Ligue du Quai, à l'Espérance de Tunis. Et puis, en Coupe de la CAF, l'ASEC d'Abidjan, vainqueur 2-0 des Tunisiens de Monasti, fera face à l'USM Alger qui a écarté les Marocains de l'ASFAR. Pour la seconde demi-finale, Young Africans de la Tanzanie croisera les Sud-Africains de Marumo Galante qui ont sorti les Égyptiens de Pyramide. Les matchs allés des deux compétitions auront lieu sous 15 et les retours une semaine plus tard.
Et puis, début de la CAN des moins de 17 ans en Algérie.
Et belle entame du pays hôte qui dispose de la Somalie 2-0. Score identique en faveur du Maroc face à l'Afrique du Sud. Début réussi également pour le Sénégal et le Nigeria qui ont battu respectivement 1-0 le Congo et la Zambie. Un seul match à suivre aujourd'hui dans la poule C, Mali-Burkina Faso. Le second qui devrait opposer le Cameroun au Soudan du Sud a été annulé. En effet, la CAF a disqualifié les Soudanais dont 4 de leurs joueurs n'ont pas répondu favorablement au test IRM mis en place pour lutter contre la fraude sur l'âge.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement rwandais se dit préoccupé par le nombre élevé de réfugiés congolais et burundais sur son sol, alors que les fonds d'assistance à ces derniers diminuent de plus en plus. Cela intervient alors que le Rwanda compte plus de 125 000 réfugiés sur son territoire, nous dit notre correspondant à Kigali, Jean Damasène Manishimwe.
Depuis 2015, le Rwanda a ouvert un camp de réfugiés à Mahama dans l'est du pays, à plus de 170 km de Kigali, la capitale. Ce camp a d'abord abrité les réfugiés burundais qui fuyaient les violences électorales dans ce pays en 2015. Plus tard, en 2021, ce camp a accueilli les réfugiés congolais après la fermeture du camp de Gihembe dans le nord du Rwanda. Le gouvernement rwandais a su avoir déployé beaucoup d'efforts pour amener ces réfugiés à vivre ensemble pacifiquement et éviter les tensions qui y survenaient quelquefois. Marie-Solange Kayisile est ministre rwandaise des urgences et qui est en charge des réfugiés.
Il est de nos responsabilités de veiller à leur coexistence pacifique entre eux-mêmes comme réfugiés et entre réfugiés et rwandais. Nous leur donnons les infrastructures communes et les services qui les poussent à vivre et à travailler ensemble. Vous l'aurez compris, ils étudient ensemble, ils se soignent ensemble, ils ont un même marché, ils ont une même église.
Cependant, depuis un certain temps, ces réfugiés sont confrontés à une baisse de l'aide habituellement envoyée par les organisations humanitaires, ce qui pousse les réfugiés à vouloir retourner chez eux.
Même si apparemment nous sommes en sécurité, nous ne sommes pas chez nous, nous venons du Congo, nos terres sont là-bas. Nous ne devrions pas vivre dans une maison à une seule chambre. Nous invitons la communauté internationale et l'ONU à nous chercher la sécurité et faire comprendre à l'État congolais que nous sommes ces réfugiés au Rwanda.
Cette préoccupation des réfugiés est partagée par les autorités rwandaises qui déplorent la lenteur dans la résolution définitive du problème des réfugiés congolais.
Le gouvernement rwandais, la RDC et le ACR ont entrepris des réunions tripartites et ministérielles pour échanger sur la mise en pratique du rapatriement des réfugiés et sur le rôle et les responsabilités de chaque partie, mais aucun progrès n'a été réalisé.
Côté burundais, les autorités du pays ont entamé des visites de sensibilisation au camp, poussant certains réfugiés à retourner au Burundi. Face à cette situation, l'Union européenne promet de s'engager pour le retour des réfugiés congolais dans leur pays. Joanna Tig représente la Suède au Rwanda.
Nous sommes aussi très inquiets de la violence en RDC. Je fais partie de l'Union européenne. En tant que membre de l'Union européenne, nous avons un canal pour faire passer ce message au siège de l'Union. Hier, nous avons eu une visite où on a discuté de la nécessité de le faire parvenir à Bruxelles pour que les gens soient au courant de ce qui se passe et qu'ils sachent que cette situation ne nous laisse pas indifférents.
Actuellement, le seul camp de Mahama dans l'est du Rwanda abrite plus de 58 000 réfugiés, dont plus de 38 000 Burundais et 19 000 Congolais. Jean Damasène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Les formalités d'obtention d'un visa d'entrée au Cameroun désormais simplifiées. Les demandeurs de visa d'entrée peuvent obtenir leur visa en ligne depuis hier. La plateforme créée à cet effet permet un traitement dans un délai de 24 heures selon le ministre des Relations extérieures, le jeune Mela Mela, qui a présenté cette innovation au cours d'un point de presse. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Vultap.
Les demandeurs de visa d'entrée au Cameroun ont quatre étapes à franchir sur la plateforme avant l'obtention du visa électronique. Le gouvernement a en août arrêté 12 modes de paiement, incluant les opérateurs locaux et internationaux de téléphonie mobile, ainsi que les cartes de paiement à l'international. Ce nouveau système comporte des avantages, selon le jeune Mela Mela, ministre des Relations extérieures.
Le nouveau système permet à tout usager qui nous souhaite de se rendre au Cameroun dans les délais de 24 heures suivant l'introduction de sa demande. Le second grand avantage, il concerne les incitations à l'intention des ministres d'affaires et de la diaspora, ainsi que de ceux qui veulent avoir des séjours touristiques dans notre pays. Le troisième avantage relève de la sécurisation des données de e-visa.
En juillet 2022, le Cameroun a promulgué une nouvelle loi sur les modalités de demande de visa d'entrée sur son territoire. Les nouveaux tarifs ont quant à eux été fixés au mois de mars dernier. Il faut désormais débourser entre 100 000 francs pour un visa court séjour et 150 000 francs CFA pour le visa long séjour. Réaction de Jessica Mani, une franco-camerounaise.
Si vraiment tout Camerounais, la diaspora, s'assoit un tout petit peu, et qu'il essaye de faire le calcul entre le coût du visa d'avant et le coût du visa actuel, on va se rendre compte que nous sommes plutôt gagnants. Parce qu'on avait un visa, une entrée, il coûtait 152 euros. Et maintenant, nous avons des visas avec plusieurs entrées.
Jacques Ndebi est un Camerounais de la diaspora. Il a longtemps résidé en France. Il salue l'introduction du visa électronique.
C'est génial parce que moi j'habitais tout le temps, j'habitais dans le sud. Donc j'habite à Narbonne, je voulais faire quelque chose, soit je vais à Marseille, si c'est le plus proche, soit je vais à Paris pour prendre quelque chose et pour revenir. C'est 1000 km et tout ça, alors que là maintenant vous êtes quelque part, vous réglez vos problèmes tranquillement. Et ça c'est très important, c'est une très bonne nouvelle en fait.
Le visa électronique d'entrée au Cameroun, selon le cas, sera délivré avec entrée multiple. Sa durée a été prorogée jusqu'à 6 mois pour les visas de court séjour et 12 mois pour les visas de long séjour. Éric Jacquemin, l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, se réjouit de l'avancée digitale optée par le gouvernement camerounais.
Le fait d'offrir ce genre de service, bah, ça ne peut qu'accélérer et faciliter l'obtention d'un visa. Donc je trouve ça quand même un projet révolutionnaire et très positif. Si ça fonctionne bien, ce sera un exemple pour d'autres pays aussi.
Pour le moment, le e-visa ne s'applique qu'aux voyageurs aériens à destination du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Un salon de l'étudiant vient de se tenir au Gabon, un événement pour aider les lycéens et les étudiants à mieux préparer leur avenir. Durant 3 jours, à la Chambre de commerce de Libreville, professionnels de l'orientation, étudiants et représentants d'écoles de formation étaient regroupés pour présenter aux jeunes à la recherche d'informations le plus large panel pour choisir leur voie. Retour sur les coulisses de ce salon avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Claude Mézina est conseiller de jeunesse. Quelques tests d'orientation lui révèlent 3 profils de candidats aux études post-universitaires.
On a l'élève qui ne sait totalement pas ce qu'il veut faire et qui a justement besoin d'éclairage et, on va dire, de pistes d'exploiter. On a l'élève qui, il sait à peu près ce qu'il veut faire, mais il a des doutes. Il se demande si c'est le meilleur choix, si ça correspond. Et on a l'élève qui sait exactement ce qu'il veut. Le test est important et nécessaire pour les 3 profils.
Pour les experts, sans cette phase d'exploration, l'élève court le risque d'une formation inadaptée à ses intérêts. C'est ce qui est visiblement arrivé à Darcy Moussavou après l'obtention de son baccalauréat littéraire.
J'ai fait le constat qu'à l'université là-bas, c'est plus un rapport dans l'enseignement général. Mais même là, si je savais dès le début, je devais plus me lancer dans l'enseignement professionnel. Et pour le moment, mon souhait, c'est d'apprendre un métier.
La visite du salon d'orientation de l'étudiant permet à beaucoup d'entamer ou de confirmer une réflexion sur le parcours auquel ils se destinent. Ils sont accueillis dans les panels ou sur les stands. Othman Benani est promoteur d'établissements supérieurs. Il vient du Maroc.
Nous choisissons des matières et des spécialisations d'aujourd'hui et de demain pour permettre à nos étudiants de trouver facilement et rapidement un travail de qualité.
Dans les allées du salon, une grosse affluence de jeunes en quête de sens. Hans Landry Ivala est directeur général du Pôle national de promotion de l'emploi au Gabon.
Il faut que les personnes comprennent qu'il y a 2 options sur le marché de l'emploi. Soit tu trouves un emploi, soit tu le crées. On essaye dans ce salon de pouvoir donner des messages rassurants. Parce que réellement, on avait l'impression que le marché de l'emploi n'offrait pas de possibilités. C'est faux. La réalité, c'est de pouvoir se dire, de pouvoir me réaliser. Et donc, il va falloir que je puisse capter les opportunités qu'il y a de disponibles. Donc l'auto-emploi n'est pas une roue de secours, c'est une réalité.
Une réalité comme ce salon qui mettait à la disposition du public des renseignements utiles aux élèves et étudiants tout en leur permettant un accès aux experts d'orientation, des responsables d'école et formation. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
À l'instar de plusieurs autres pays, célèbre la fête internationale du travail ce 1er mai. Cependant, tout le monde n'a pas l'esprit à la fête. C'est le cas notamment des sans-emploi, nous dit Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
La fête du travail célébrée le 1er mai dans de nombreux pays du monde est l'occasion pour les mouvements syndicaux d'organiser des manifestations pour mettre en exergue les difficultés des travailleurs et célébrer leurs droits. Récemment en Côte d'Ivoire, l'État annonçait plusieurs mesures pour la revalorisation des salaires et le bien-être de ses travailleurs. Des mesures qui ont abouti à une trêve sociale. Mylène Adou, fonctionnaire, agent de l'État.
Les travailleurs doivent avoir un jour pour se reposer et puis pour jouer un peu de tout ce qu'ils ont pu recueillir toute l'année.
Interrogés dans les rues de la capitale économique ivoirienne, ces travailleurs racontent le jour où ils ont eu droit à leur tout premier boulot.
Moi, c'était un grand souvenir pour moi. Vraiment, je n'ai jamais oublié ce souvenir-là. C'était en 2018. Ça m'a permis d'avoir aussi d'autres opportunités.
Mon premier emploi, d'abord, j'ai été vigile dans une boîte de sécurité dans les années 2000-2006. À ce moment, on était payé à 37 000.
J'étais à Thiès-Salé, à la Nouvelle Siga. C'est une plantation d'ananas en 84. Moi, j'étais l'infirmière là-bas de la société.
Par contre, malgré toutes les opportunités d'emploi qu'offre le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes, il y a d'autres personnes, en majorité des jeunes ivoiriens, qui n'ont toujours pas accès au travail. Joël Kofi, titulaire d'un BTS en gestion commerciale, gérant des cabines dans le quartier Oasis, dans la commune de Yopougon.
Alors, on a tenté des concours et ça n'a pas marché. Donc, on ne peut pas rester à la maison puisque j'ai fait une formation commerciale. C'est là que j'ai pensé à mettre un petit truc en place.
De l'autre côté de la rue, un autre diplômé, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication et ressources humaines, tient un cybercafé. Pour lui, l'auto-emploi peut être une des solutions face au chômage.
L'État ne peut pas employer tout le monde. Tout ce que l'État peut te donner, c'est une formation. Mais après la formation, maintenant, il faut créer, il faut innover. C'est dans l'innovation qu'il va te faire la persévérance.
Et à Georges Mélège, jeune fonctionnaire du privé, d'ajouter.
Et bonne fête de travail à tous les travailleurs. Que le travail arrive entre les mains de ceux qui ne travaillent pas. Le chômage va bientôt finir.
Rappelons que les États-Unis, tout comme le Canada, eux, célèbrent la fête du travail le premier lundi de septembre de chaque année. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Lionel Ronanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.